Chapitre 11. Le lendemain de la joie. Le lendemain, qui était un jeudi, il fut convenu que les fiancés iraient aux habits, c'est-à-dire acheter les cadeaux de noces, dans la ville de Boulay. De bonne heure, Jacques Balthus et Oran quittaient l'école de Condé. À la porte se trouvait une automobile empruntée à un commerçant du bourg. Au moment où Jacques sortait de la maison, sa femme, l'ayant laissé descendre les marches, disait, debout sur le seuil, « Au revoir, mes bien-aimés !» Ces deux mots-là firent se détourner l'instituteur et sa fille, déjà montés dans l'automobile. Jacques Balthus se pencha. « Mais tu devrais venir avec nous !» Marie Aupin hocha la tête. « Mais que penserait-il, le pauvre petit, quand il va venir, si je n'étais pas ici, ou bien à sa recherche ?» L'automobile descendit aussitôt la pente et au bas de la place tourna à droite. À la sortie du bourg, Mansuy attendait, vêtu d'un complet brun, son bâton à la main et la moustache relevée. Il prit place à l'arrière près d'Oran. C'étaient trois heureux qui partaient. Après le long village de Creutzwald, ils entrèrent dans l'immense forêt de la Houve, sapins d'abord, puis chênes et ormes et bouleaux. La brume dormait encore dans les creux. Le soleil ne touchait que les hautes frondaisons. Ni lui, ni le vent léger n'avaient chassé encore le parfum de la nuit amassé sous les arbres, parfum des aiguilles résineuses, parfum des mousses et des fougères. La route était presque déserte. La voiture, dans la longue traversée des massifs sans clairière, croisa seulement deux de ces chars automobiles qui, de tous les points de l'horizon, amènent les ouvriers aux mines de la Houve. Puis, brusquement, la forêt s'ouvrit sur la lumière des champs. Les seigles, les avoines, les trèfles, les guérets nouvellement remués buvaient le jour limpide et l'air irrespiré. Toute la campagne était dehors, occupée aux travaux des longs jours d'été. On eût dit que les gens devinaient le bonheur au passage. Beaucoup même de loin bouchaient le bord de leur chapeau ou faisaient signe avec la main. Dans ce matin pur, les choses étaient une caresse pour l'âme et lui disaient « Béni !» Quelques villages, des enfants par gerbe devant les maisons, des mères qui rappellent, perdrix effarouchés « Rangez-vous donc !» Des fuchsias au bord des fenêtres, des fumiers bien dressés en rectangle, et le coq au soleil, perché sur un tas d'or. Le temps ne durait à personne, pas même à Jacques Balthus, qui oubliait le maire de Condé, les soucis de la classe, ceux plus graves du ménage et les menaces de Paris, pour ne penser qu'à ses deux enfants amoureux et aux rires de jeunesse emportés par le vent. On fut bientôt rendu à la gare de Boulay, au commencement de cette longue rue, tige unique au bout de laquelle il y a une place, et tout un gros dahlia de maisons et de rues autour d'un vieil hôtel de ville. On ne trouve guère sur nos frontières de petites villes plus françaises que celle-là. Les maisons, presque toutes, ont une modeste figure de France. Quelques-unes, les aïeules, portent la coiffure à la mansarde. Beaucoup ont des fenêtres Louis XV. L'hôtel de ville est de 1770, l'église de 1780. Mais ce qu'il y a de mieux accordé à notre civilisation, à nos coutumes, à nos goûts, à nos amours, ce Boulay d'extrême Moselle, c'est le cœur de ses habitants. Les Allemands, pendant l'interrègne, ne l'ont point gagné ni changé. Ils appelaient Boulay un nid de Français. Jacques Balthus avait un ami commerçant établi sur la place de la République. Quand il lui eut rendu visite et qu'on eut goûté les macarons fameux et le vin blanc du pays, ce furent les jeunes gens qui traversèrent les premiers la place, l'un près de l'autre. Le père suivait. Mansuy, chez le bijoutier, acheta l'alliance d'Oran et Oran l'alliance de Mansuy. Chez le marchand d'étoffes, le fiancé offrit à sa fiancée le coupon de belle soie noire dans lequel serait taillée la robe de mariage. La fiancée offrit la cravate et la chemise de fine toile. On retraversa la place pour choisir chez le libraire. C'était l'un de deux amis de Jacques, l'autre était M. Kuhn, le maire de la ville. Les deux paroissiens, reliés en beau marocain et doré sur tranche, et riches de signets de soie. Il était de bonne heure encore, lorsque ses présents d'usage et plusieurs autres eurent été serrés dans le coffre de la voiture, qu'on avait arrêté devant la porte de M. Stranger, le libraire. Jacques Balthus, qui connaissait à merveille son chef-lieu, proposa à sa fille, à Mansuit, de faire un tour de vieille ville, de voir la mairie et l'église, les restes des remparts, la rue des Arquebusiers, la rue du Pressoir, celle du Four Banal, celle du Chaudron, la place du Couvent, où habitèrent jusqu'à la Révolution des Bénédictins irlandais, la place de la Vendée, où les femmes de Boulay, pendant la Terreur, mirent en fuite de mauvais gars qui commençaient à brûler les ornements sacrés et un crucifix de bois. Oran regarda son père qui s'apprêtait à remettre en marche l'automobile. « Si vous voulez nous faire plaisir, dit-elle, et je suis venu pour cela, vous nous conduirez à Bérus, où est le tombeau de ma patronne, et nous déjeunerons chez Jonathan Haskas. Tu le connais ? Non, mais je voudrais montrer à Mansuit des choses qu'on voit de là. » Il savait que cette fille, plus ardente que lui-même, ne parlait jamais à l'étourdi. Sans comprendre bien ce qu'elle voulait, songeuse au long projet, il accepta. Rentré quelques heures plus tard à Condé, qu'importait ce jour-là? Les voyageurs remontèrent dans la voiture qui, sortant de la ville, prit une route vers l'est. On suivit les vallées, quelquefois dans les bois, plus souvent parmi les terres cultivées ou les prés de la Veillère. Il faisait chaud. Juin était tout au travail de mûrir les épis. Après Merton, on entra dans la Sarre. Les voyageurs aperçurent un paysage étendu, couleur d'herbe vers la droite, et de l'autre côté, tout près, un massif escarpé et boisé. On tourna à la hauteur en traversant Bistène. 2 minutes plus tard, un haut éperon appelé Rincey, cap avancé dans la plaine de Saint-Louis. « Pérus !» dit Oran. « Oh, si vous pouvez, le père, arrêtez-vous quelquefois sur la pente, c'est si beau !» La pente était rude. On montait parmi les vergers qui, tout du long, couvraient le flanc de la falaise, et au sommet, demi-cachés par des buissons, les têtes d'arbres, les bouts de haies, les maisons dormaient en longue file. Une seule rue. Jacques Balthus eut vite fait d'amener l'automobile jusqu'au bourg de Bérus, haut porté par sa roche dans la lumière, et il rangea la voiture à l'ombre des murs de l'église. La jeune fille et son fiancé prièrent un moment devant l'autel, puis devant la statue de la patronne de la frontière lorraine, qui est près de l'autel. Mansuit, ayant examiné avec attention le médaillon encastré dans le socle, et où la sainte est représentée tenant la croix, vêtue d'une robe rouge et d'un manteau bleu et la tête couverte d'un voile blanc, dit gravement « Tu lui ressembles !» Oran répondit en riant « Elle était fille de roi !»« Eh bien, ça se trouve encore, » dit-il. Et comme il disait cela en français, il ne s'expliqua pas davantage. Dehors, ils retrouvèrent Jacques Balthus. Les dernières maisons du village n'étaient pas loin. On laissa l'automobile à la garde de 10 petits Sarrois qui l'admiraient. Les 3 voyageurs prirent un sentier et, sous les branches des pruniers et des pommiers, gagnèrent l'auberge qu'avait désignée Oran. Tandis que l'instituteur entrait dans la maison et faisait mettre le couvert, Oran et Mansuit traversaient le jardin où, le dimanche, des pèlerins, des promeneurs de toute la plaine visible de la Sarre viennent faire de longues beuveries et fumeries. À cette heure-là et ce jour-là, on n'y voyait personne. Les tables de bois blanc, disposées avec ordre, occupaient presque toute la largeur du rocher. Des brassées de genêts secs, étendues sur des fils de fer, à 3 mètres au-dessus du sol, faisaient de l'ombre par place. Mais l'espace se resserrant entre les deux murailles à pis de l'éperon, il avait bien fallu laisser l'extrême pointe aux pierres et aux buissons de ronces. Là, sur un bloc de roche, Oran et Mansuy montèrent et se tinrent debout, en se donnant la main. « Regarde, dit la jeune fille, tu es venu ici 2 fois peut-être.
Oui, 1 fois en septembre pour le grand pèlerinage du 3e dimanche.
Oui, il y a longtemps.
Bien moi, je suis inhabitué de Bérus à cause de mon nom, tu comprends. Et puis notre père nous menait à Bérus chaque année au temps des Allemands. Tu vas voir pourquoi.
Je devine.
Oh non, non, tu ne peux pas deviner pourquoi j'ai voulu venir. Regarde bien.
Au-dessous d'eux, jusqu'à l'extrême horizon, c'était la plaine d'un vert tendre et mouillé, où les villages nombreux, se suivant comme grains de chapelet, formaient des taches d'un rose éteint, puits de mines avec les corons, habitations ouvrières, ateliers de métallurgie que la fumée couvrait, mais humblement au bas d'un ciel immense. L'herbe et les moissons vertes gardaient leur seigneurie dans le paysage sarrois. Et puis, çà et là, si loin parfois que les yeux ne pouvaient estimer la distance, on apercevait un massif de brume dont les bords aux 2 extrémités tombaient droit sur la plaine et qui la bleuissaient. Et c'était, parmi les prairies, les seigles, les avoines, et plus haut que les toits des villages, une futaie antique, épargnée, détachée des forêts qui couvrent au-delà les collines. Tout cela, m'en suis, fut à la France avant 1815. Le savais-tu?
Me l'avait dit.
Et tout cela peut nous revenir?
Oui, je sais. Nous cultiverons une des fermes les plus proches de la Sarre.
Tu commanderas tes chevaux, et les bûcherons dans les bois de la Sarre pourront dire « C'est Monsieur Mansuy de la Horgne,
celui qui a épousé une Balthus. »
Eh oui, et tu iras quelquefois à Saint-Louis ou ailleurs. Il faut donc que je t'apprenne, mon Mansuy, que nos officiers et soldats d'autrefois avaient laissé dans les bons cœurs de plusieurs villes d'ici un goût de la France. La Horgne, vois-tu, c'est comme la dernière mode de notre pays. Il faut connaître les modes voisines. »
Elle était fière, cette fille de Lorraine, de confier ainsi le secret de son âme à l'homme qu'elle aimait. L'or des belles rayées de juin était sur son visage. Pas un bruit ne montait vers eux. Mansuy éprouvait pour elle une admiration qui grandissait son amour et qu'elle devinait. Elle reprit, désignant de la main une région vers la droite.
« Là, ce village a nom Picard. As-tu demandé pourquoi ?»«
Non. »«
En souvenir du régiment de Royal Picard, qui était de chez nous. Et là-bas en face, pas très loin, tu vois la petite ville rose ? C'est Bourg-Dauphin. Encore un nom de notre royauté. » Comme elle en a des filleuls dans la Sarre, la France d'autrefois. Regarde encore plus loin, Mansuy, la ville, tout devant nous. Qu'est-ce que c'est?
Saint-Louis?
Celui-là, on le connaît par toute la terre. Oui, tu sais cela, mais j'ai appris de mon père des choses qui me passionnent, parce que je suis française, comme tous les Balthus, comme tu l'es toi-même. Il disait à table, regardant Nicolas et moi aussi, « Saint-Louis, fortifié par Vauban, jamais prise par fait de guerre, 1792, 1814, 1815, 3 bombardements, des morts, des incendies, point de reddition. Il a fallu la force des traités pour qu'elle fût prise. »
Entre ces deux dates extrêmes que je vous indique, à 23 ans, elle a compté dans les armées françaises plus de 400 gradés. C'est pour te dire ces choses-là que je suis venu ici. 400, dit Mansuy. Et c'est grand comme la main. Es-tu sûr? Oui, je sais encore les chiffres. Je les avais appris comme un pater avec Nicolas Leblond. Et nous les récitions. Attends. Nay, maréchal de France, 12 généraux, 9 colonels, 69 capitaines, 92 lieutenants ou sous-lieutenants, des sous-officiers plus de 200. Et c'était pas des conscrits, mon Mansuy, c'était des volontaires désengagés. Oh, chic, mais tu vois bien que tu sais le français. Les mots d'argot te montent du cœur aux lèvres. Et plus vite que les autres. Écoute encore. Une seule famille du nom de Cellier. Si nous n'étions pas en équilibre, tu pourrais lever ton chapeau. A donné dans ces temps-là à la France 7 officiers de cuirassiers, tous 7 décorés, tous 7 tués à l'ennemi. Il était, vois-tu bien, qu'à 10 lieues de Metz. Le vent portait. Dis encore des noms de famille, j'en connais peut-être. Oran leva les yeux vers le bleu du ciel, comme si les noms avaient été écrits là-haut. Les Ganal. Elle se tut. Les Houts, dit une voix derrière elle et en bas. C'était le père qui était revenu. Les Hermann, reprit Oran. Les Télinges. Balthus ajouta. La frange du pays a toujours été belle de ce côté. Allons, mes petits, descendez de votre rocher. La fille de Johann a mis votre couvert. Venez. Il aida Oran à descendre dans le sentier. Tous trois, gaiement, ils traversèrent de nouveau le jardin et ils entrèrent dans une salle que l'aubergiste avait réservée pour eux. La demi-heure qu'ils passèrent là fut d'abord très joyeuse, paisible et telle qu'ils disaient « Oh, nous n'en perdrons jamais le souvenir !» Hélas, en parlant ainsi, ils ignoraient à quel point ils allaient avoir raison. Vers la fin du repas, Oran proposa de téléphoner à sa mère. « Si elle répond, je lui parlerai, » dit Mansuy. Il sortit de la salle avec Oran et dans une pièce voisine, décrochant l'écouteur du téléphone, la jeune fille demanda « La communication avec Condé Lacroix, numéro 7. » Presque tout de suite, le timbre sonna. « C'est bien à Madame Jacques Balthus que je parle, » dit en riant Oran. « À elle-même, pourquoi n'êtes-vous pas revenu encore? J'étais tout inquiète. C'est ma faute, maman. Alors je pardonne. Le père a bien voulu nous mener de Boulay à Bérus. Bonne journée, je vous assure. M'en suis ma gâtée. » Non seulement une robe de la plus belle soie, non seulement nos livres, nos alliances, mais un bracelet d'or que vous verrez. Dans 50 minutes, nous serons à Condé. Tu es heureuse, mon Oran? Oh, tout à fait. Alors, moi aussi, je vais l'être. Croirais-tu? Dites la nouvelle. 3 des pins que j'avais mis pour lui le long de la lisière du Varn ont été emportés. Quelqu'un m'a dit avoir vu un jeune homme, tout semblable à celui que j'attends, errer sur la route que vous suivrez en revenant. Regardez bien. Ce jeune homme était vêtu pauvrement et portait un paquet de bardes sur l'épaule. Il ne cessait d'observer de loin notre Condé, et il s'avançait et il s'arrêtait. Ne vous tourmentez pas comme vous faites de ce que les gens vous racontent. Tenez, j'ai là près de moi un autre jeune homme, m'en suis. Vous savez bien. Oh oui. Il demande la permission de causer avec vous. Dites-lui de parler. Oran tendit l'écouteur à son fiancé. Est-ce bien vous qui parlez? Reprit la voix lointaine. Mais oui. N'est-ce pas toi plutôt? Le pauvre gars ne comprit pas. Il répondit.
Oh, si vous voulez, moi je veux bien. Tutoyez-moi, ça me fera honneur. Bonjour, maman.
Oran poussa un cri d'effroi.
Qu'as-tu fait, mon pauvre ami? Oh, donne-moi vite l'écouteur. Maman, maman. Elle ne répond pas. Maman.
Deux fois encore, elle essaya d'avoir une réponse et n'en eut point. Elle se précipita hors de la pièce et courut jusqu'à la salle où Balthus, ayant achevé de déjeuner, fumait en regardant le jardin de l'auberge.
« Vite, partons. J'ai appelé au téléphone. Et maman, tout à coup, a cessé de répondre. Je l'ai demandé de nouveau et rien ne répond. Partons, je vous en supplie. »
À l'autre extrémité du fil, dans la cuisine de l'école de Condé-la-Croix, Marie Aupin, entendant la voix de Mansuy, a cru entendre la voix de son enfant. Le sang a battu violemment dans toutes les artères et les veines de son corps. Lorsque le mot lui est parvenu « maman », elle n'a plus eu de doute. De trop de joie qu'elle a eue, le cœur lui a pâmé. Doucement, le long du mur de sa cuisine, elle s'est étendue sur le carreau. Elle dit tout bas pour se rassurer elle-même, « Ce n'est rien. » Mais elle a mis les deux mains sur son cœur qui saute trop vite. Son visage est tourné du côté de l'ombre. Une longue minute, elle demeure évanouie. Puis elle se soulève un peu sur le coude sans plus rien voir. Elle ouvre encore les lèvres.
Je savais bien que mon fils reviendrait, et il est revenu, maman, maman.
Mais la tête retombe, les lèvres baisent le sol et s'y appuient. Marie Aupin a fermé les yeux et plus jamais ne les a rouverts. Chapitre 12. La décision. La foule fut grande aux funérailles de Marie. De beaucoup de communes voisines, des instituteurs étaient venus et d'autres de Metz et de plus loin encore. Mais la Lorraine de la terre, celle de l'étable et de la hache, le peuple croyant, ancien, résistant, fut remué aussi par la nouvelle de la mort de cette mère et du deuil de Jacques Balthus. On avait su qu'un personnage officieux avait présidé une réunion d'instituteurs à Saint-Nabord, qu'il avait prêché contre la religion et que l'instituteur de Condé ne s'était pas laissé intimider. Aussi les hommes s'étaient rassemblés pour voir et honorer celui qui avait été brave en temps de paix. Car dans la guerre, tout le monde ose, et cela paraît naturel. L'histoire, la légende, la douleur faisaient donc une gloire à ce pauvre homme qui marchait en tête du cortège lorsque le corps de Marie fut porté au cimetière. Les femmes disaient « Comme il a de la peine, il aimait bien cette Marie. Elle avait gardé pour lui sa tendresse de jeune femme. Voyez aussi Oran, qui va en avant de nous. Les vierges, les vitraux ne sont pas plus droites qu'elle, ni plus indifférentes au regard qui les cherche. Je vous le dis, elle est une puissance de foi, de bravoure, d'opiniâtreté, le portrait vivant de notre Lorraine, où les hommes ne sont si braves que parce que l'exemple est auprès d'eux, secret, caché, aimé. » Les hommes, entre eux, parlaient bas et disaient des choses plus dures à entendre. Beaucoup avaient pris leur tenue de cérémonie, la redingote et le chapeau de forme qu'on nomme sur cette frontière la capote et le cylindre. Ils disaient « Faudra soutenir Balthus, c'est notre homme. Nos gens de l'intérieur se sont déclarés contre nous. »
« Non, pas tous, Dominique, n'exagère pas. Ceux qui mènent, ils nous connaissent pas. »«
Oh, tu veux dire qu'ils nous connaissent plus, 50 ans d'absence. »
« Eh bien, ce Jacques leur a dit, est-ce qu'il paraît des paroles justes l'autre jour à la réunion des régents ?»«
Ben, si tu m'en crois, nous le nommerons au conseil l'an prochain. »«
Ton avis n'est pas mauvais. » Mais il faut que le pauvre survive à son chagrin.
Laisse faire ces sortes d'hommes-là. On les croit abattus, on les touche et ils sont debout. » Et dans le voyage cortège, on voyait aussi, formant un groupe serré, des mineurs polonais de mine de la Houve. Peut-être leurs enfants avaient-ils été instruits par Balthus. Mais ces hauts gaillards, aux poils fauves et aux pommettes écartées, étaient venus là surtout comme témoins religieux attirés par la pitié. Ils se tinrent un moment à l'écart, lorsque les prières dites au cimetière, les paroissiens de Condé-la-Croix, les amis de l'instituteur et les amis de Marie, se pressèrent, chacun cherchant à passer devant l'autre, afin d'asperger le cercueil d'eau bénite et de retrouver au plus vite la maison, le travail, la vie ordinaire où l'on gagne. Les mineurs de Pologne se présentèrent les derniers. De loin, ils virent qu'un groupe nombreux, de ceux-là qui avaient déjà donné l'eau bénite, s'était formé autour de la croix élevée au milieu du champ des morts. Était-ce un discours qui rassemblait ainsi les habitants? Non, la scène était presque muette et elle fut courte. Un jeune homme, un de ces bûcherons qui travaillent dans la solitude et ruminent longtemps leurs projets, s'était avancé tout à coup vers la croix. Le drapeau que Balthus avait planté là, entre deux pierres du piédestal, le jour de l'armistice, était demeuré à la même place. Combien fané, noirci par la poussière, délavé par la pluie, usé au bord par le vent, il flottait quand même. Avant que personne eût deviné ce qu'il allait faire, le tâcheron avait saisi la hampe, avait soulevé le drapeau, et maintenant il le jetait sur le socle. Savait-il bien ce qu'il faisait? 50 voix grondèrent aussi. Tôt, 50 Lorrains accoururent et montèrent sur la marche. On lui dit que les hommes se battaient. Le profanateur se glissa parmi eux et disparut. Puis subitement, le silence se fit. Un homme s'emparait du drapeau que tous les autres mains abandonnaient aux siennes. Il le replantait au même endroit, l'enfonçait plus profondément et disait « Que personne n'y touche !» Et c'était le même homme qui naguère avait apporté aux morts de Condé la nouvelle que la vieille patrie était enfin retrouvée, Jacques Balthus. Il écarta ceux qui voulaient le remercier. Il rejoignit Orane. Seul avec elle, on le vit monter, l'air accablé, sa haute taille toute courbée vers l'école où le lendemain il allait reprendre son métier. Le lendemain, il reçut la visite redoutée. La lettre qui le prévenait arriva à 8 heures, l'automobile à 11. Le bel homme, comme disaient les dames de l'enseignement, sortit lestement de la limousine et se tint un instant sur la première marche du perron, tourné vers le village, regardant la place en pente, les maisons, la plaine au-delà, chercheur de pittoresques dans le bourg inconnu. Puis d'un geste, il enleva le pardessus d'été qu'il avait mis à cause de la fraîcheur du matin, il le jeta sur les coussins de l'automobile, et satisfait, dans sa jaquette grise serrée à la taille, la boutonnière ornée de la rosette sur canapé d'argent, il acheva de monter les marches du perron et sonna à la porte de l'école communale. Oran vint ouvrir. Il s'inclina. « Monsieur l'instituteur public de Condé-la-Croix, s'il vous plaît. Ah, pardon, mademoiselle Balthus, peut-être. »« Oui, monsieur, mon père vient de finir sa classe. Veuillez me suivre. » Elle marchait devant lui. Elle se sentait regardée. Et tandis qu'elle traversait ainsi la grande salle de l'école, puis le corridor, Oran se promettait de ne pas donner à cet ennemi de son père l'occasion de causer avec une petite Lorraine de Condé. Arrivée devant le cabinet de travail de Balthus, elle ouvrit la porte, indiquant à l'envoyé qu'il devait entrer. « Je vais prévenir mon père, dit-elle, il est au jardin. » Balthus bêchait un carré de légumes. Il s'était hâté dès que les enfants avaient eu quitté l'école
de prendre sa vieille veste de travail usée au coude et perdant sa doublure par des crevés sans point d'arrêt. Il arrivait nu-tête, les mains tachées de terre et les moustaches en berne. Et cela signifiait quelque chose que le délégué comprit très bien lorsque Balthus entra. « Asseyez-vous, monsieur, je vous prie, prenez le fauteuil, c'est le seul de la maison. » L'instituteur désignait un fauteuil placé entre deux chaises, le long de la muraille, sous le petit crucifix de plâtre bronzé, et lui-même, il s'asseyait en face de l'homme officiel, à la table de travail, la tête bien droite. Non, vraiment, ce n'était plus le même homme que M. Pergaud avait interrogé, menacé et intimidé finalement, après la réunion des instituteurs du canton de Saint-Nabor. La douleur avait creusé les rides du visage et marqué les plans de cette tête dure de Lorrain. Le menton avançant était devenu le trait-maître du visage. Les méplats des joues n'avaient plus une once de graisse. Les tempes bleuies serraient le front qui paraissait plus haut. Les yeux ne cherchaient ni à plaire ni à deviner. Ils voulaient. Quoi ? Les mots devaient être prêts, qui allaient formuler cette décision. L'envoyé des bureaux de Paris avait trop l'habitude de traiter avec les hommes pour ne pas les aborder d'ordinaire avec le secret mépris de la force sans charité. Par exception, il soupçonnait, en ce moment, qu'il allait perdre la bataille. Mais il devait la livrer. Il fallait savoir au moins comment elle serait perdue. C'est pourquoi M. Pergaud, sans conviction, prit le ton patelin. « Bon, mon pauvre monsieur Balthus, depuis l'autre jour, vous avez eu un grand malheur. »« Celui que j'ai tant redouté. »« Je vous exprime mes bien profondes condoléances. » Rompant avec le formulaire, Balthus jeta ces mots d'un autre ordre. « Moi, monsieur, j'ai des excuses à vous faire. » Pergaud a-t-il bien entendu ? La souplesse à présent ? Il ressent un plaisir qui passe en éclair dans ses yeux. « Je l'aurais parié. Je m'étais dit lorsque vous m'avez quitté, ce garçon est intelligent. Qu'il réfléchisse un jour seulement, il verra son intérêt, et nous nous comprendrons. » « Monsieur, je n'ai pas eu besoin de réfléchir un jour. »« Mieux encore !»« Avant même que vous eussiez annoncé avec un luxe de précaution, le personnage sourit, sa barbe s'entr'ouvrit. « Nécessaire, dit-il. »« Habile, monsieur. »« Je vous remercie. »« Oui, avant même de vous entendre exposer ce projet, d'exposer à la Lorraine l'école neutre, » je vous ai dit qu'à mon avis, il y avait là un grand danger. En toute franchise, oui, vous l'avez déclaré, en effet. Un manque de parole de la France. Oh, monsieur l'instituteur, vous allez trop loin. Une injustice. Je ne puis permettre ce mot-là. Ne vous levez pas, monsieur le délégué. Pourquoi me quittez-vous avant d'avoir connu ma réponse ? « Parce que, monsieur l'instituteur, je pense que votre deuil récent ne vous laisse pas le sang-froid nécessaire pour discuter des questions pareilles. Si vous voulez bien éviter les mots violents, je me rassieds. » À la bonne heure. Mais tout est violent dans cette affaire, monsieur. Violence faite aux parents qui veulent pour leurs enfants l'éducation chrétienne. Violence faite aux enfants qu'on sépare de leur race. Violence au maître comme moi, je ne m'en cache pas, qui suis croyant autant que mon frère l'abbé. Violence dans les moyens, car pour commencer, ne m'avez-vous pas menacé de me déplacer si je ne servais pas votre politique ? Celle du ministère, monsieur, je ne retire rien. Je me borne à vous faire observer que votre premier mot tout à l'heure annonçait des excuses, je les attends. Les voici. Je vous fais mes excuses en très grande confusion d'avoir pu vous laisser croire par lâcheté dans la surprise du premier moment que j'étais capable de renier ma foi. Le délégué leva les épaules et dit, devenu rouge et dur du regard, « Mais je vous ai jamais demandé cela !» Vous l'aurez pour vous, en Lorraine, que certains des immigrés de l'enseignement, les moins heureusement choisis. Autrefois, les indésirables venaient de l'Est. Et à présent, monsieur, achevez. À présent, vous vous préparez à vous en envoyer de l'Ouest, qui ne seront pas moins dangereux pour la Lorraine, et contre lesquels elle se défendra. Fort bien. J'ai eu grand honte à la réflexion de ne vous avoir pas dit aussi clairement ma pensée. Mais vous me menaciez le déplacement. Je me souviens. Ma femme était malade, vous le saviez. L'homme eut un geste digne, évasif. Malthus reprit. Lui annoncer que nous allions quitter Condé-la-Croix, c'était la tuer. Je n'aurais pas pu la décider à me suivre ailleurs. Je me suis tu. Marie est morte à présent, et je me sens, hélas, bien libre de répondre selon mes convictions. Vous en usez. J'en use. Mais au dernier moment, je suis sûr que j'aurais fait de même. Si ma pauvre femme avait vécu, j'aurais couru le risque. En vous disant cela, je ne crois pas me vanter. Il vit que Pergaud allait lui répondre et lui en laissa pas le temps. Comme beaucoup d'hommes du peuple, dans la contradiction, à un certain moment, l'ardeur de ses convictions l'empêchait d'écouter l'adversaire. « Révoquez-moi, ou bien nommez-moi instituteur à 100 kilomètres d'ici. Montrez votre puissance, allons, décidez de mon sort. » Si bien que l'autre, blessé, demanda « Que feriez-vous, monsieur, si je vous faisais changer de poste ?»« Cela dépend. Si la Lorraine garde sa liberté et ses écoles chrétiennes, j'accepte d'aller où vous voudrez, dans les limites de la province. Mais si vous changez le régime, je refuse toute complicité. »« Monsieur, je refuse, vous dis-je. Je donne ma démission, je me retire près de mon frère à la Horgne. » Dès lors, je deviens éligible, et je vous en préviens. J'userai aussi de ce droit-là. Je me présenterai aux élections municipales, et je serai maire de Condé au commencement de l'année prochaine. Mais vous avez songé à tout. À tout, renseignez-vous. La population dans la lutte pour l'enseignement sera tout entière avec moi. Il n'y avait plus de distance sociale entre ces deux hommes. Malthus exprimait le fond de son être, sans plus de ménagement, résolu à vivre comme il pourrait, mais à ne point faiblir même en parole. Il lui semblait que la Lorraine venait par lui de donner sa réponse à la menace et qu'elle le remerciait. « Bien, bien, mon Malthus !» L'envoyé, lui, voyait clairement quel bénéfice il pourrait tirer de cette disposition d'esprit du Lorrain. Obtenir d'un homme qu'il livre la doctrine totale et le secret d'un parti, d'une province, quelle aubaine! Et au grand étonnement de Malthus, qui s'attendait à recevoir son congé, l'homme puissant avait pris un air satisfait. Il caressa par 3 fois sa barbe et appuyant ses épaules au dossier du fauteuil, « Mon cher monsieur Malthus, puisque vous êtes si bien informé de la pensée de la Lorraine, je ne serais pas fâché de vous entendre exposer ce que vous voulez, ce que veut d'après vous la province. »« Le respect de nos écoles confessionnelles, pas autre chose, monsieur le délégué. L'exécution d'une promesse 10 fois répétée. »« Sans doute, oui, mais je voudrais savoir quelle part, quelle place vos futurs administrés et vous-même vous estimez que doit avoir la religion dans l'enseignement. Ou la première, ou plutôt non, comprenez bien. Vous prétendez ignorer toute religion à l'école, et nous, les Lorrains, nous voulons vivre la nôtre, là comme ailleurs. Elle n'est pas séparable de nous, elle est nous-mêmes. Alors, monsieur Malthus, en classe, vous parlez de Dieu tout le temps. Non pas, je le suppose toujours. Je le nomme si c'est utile. Au point où nous en sommes, je n'ai pas grand-chose à ménager.
ni personne, sans doute. Ni personne, parce qu'il s'agit du plus grand bien qui soit. Nous n'accepterons jamais que nos enfants soient élevés comme les vôtres. En les séparant de Dieu, autant que vous le pouvez, vous êtes les ennemis de chacun. Vous les diminuez. Vous tuerez le pays si vous durez. Vos catholiques de l'intérieur sont de trop bonnes gens. Nous, ici, nous sommes sur la terre de lutte. Pas d'Allemands, pas d'impies. Français de la grande manière, voilà tout le programme. Que vous y preniez par la force ou par la ruse, vous ne réussirez pas. Pour vous être fidèles, nous avons supporté les deux manières de persécution pendant 48 ans. Et s'il faut que nous la souffrions à présent de votre part, eh bien, soit. Nous vous vaincrons aussi pour votre bien, et je sais des mamans, des mères de mes écoliers qui ont commencé la prière quotidienne pour la conversion. De la République ? Pas précisément. Des yeux bénis de la France qui ne voient pas assez loin. Je ne suis qu'un fils de paysan, monsieur, qu'un maître d'école de la frontière. Mais j'ai mon bel honneur, et je vous le répète, mes excuses de ne pas vous avoir parlé tout de suite comme je viens de faire. Le puissant, qui écoutait ces mots-là avec une colère mal dissimulée, fit effort pour modérer sa voix et son geste. Il demanda, comme si l'entretien venait de s'ouvrir et qu'il eut besoin d'un premier renseignement. Et vous dites, monsieur Balthus, qu'il y a en Lorraine beaucoup d'instituteurs qui vous ressemblent. Oh, beaucoup, monsieur. Presque tous ceux qui sont lorrains et quelques autres venus de chez vous. J'ai encore ceci à vous dire, après quoi vous pourrez rapporter à Paris notre conversation. Oh, n'y manquerait pas. Eh bien, à votre avis, la France officielle se conduit vis-à-vis de l'Alsace-Lorraine comme un amant vis-à-vis de sa maîtresse. Des fleurs, des rubans, des fêtes, de jolies phrases. Le mépris est sous-entendu. Ce que nous voulions, nous, c'était mettre en ménage avec le grand pays, honnêtement, pour toujours, en respectant la loi divine. Fort bien, je vous remercie. L'envoyé s'était tourné du côté de la fenêtre. Il eut une espèce de sourire. Joli jardin, monsieur l'instituteur. Il étendit le bras, traçant dans l'air un demi-cercle. Et cette large campagne, vous êtes privilégiés, vous autres. Croyez-vous ? Ne sachant trop que faire, manquant un peu de ce qui faisait la force de l'autre, l'instituteur de Condé quitta la place où il était et vint à la fenêtre. Tenez, monsieur le délégué, ici les petits oignons, là des pommes de terre qui viennent bien dans nos terres légères de jardin. Vraiment ? Oui, très bien, pourvu que l'année ne soit pas trop pluvieuse. Subitement, Balthus fut pris de honte. Il sentit l'indignité de cette comédie d'un moment à laquelle il s'était prêté. Et regardant Pergaud dans les yeux, « Dites-moi à votre tour, suis-je révoqué ? Nullement. Serais-je changé de poste ?» Un peu gêné par le regard de Balthus, l'envoyé considérait avec attention le plateau montant qu'on apercevait entre les arbres. « Ne vous troublez pas, je suis venu principalement pour me renseigner. Vous m'y avez aidé. Les changements dont j'ai entretenu vos collègues et vous ne sont pas de ceux qui doivent être faits brusquement. Le gouvernement est trop sage pour ne pas se faire un allié du temps. Allez, au revoir, monsieur Balthus. » « Continuez d'instruire les enfants de Condé. » L'envoyé tendait la main que Balthus serra faiblement. Les deux hommes passèrent la porte du cabinet de travail et suivirent le couloir. Quelqu'un marchait dans la pièce voisine. « Vous avez une fille charmante, monsieur Balthus. » Il ne fut point répondu à cette politesse. L'automobile auprès de l'école attendait toujours. Monsieur Pergaud monta dans la voiture et fit un geste d'adieu. Dès qu'il eut entendu le meuglement bref de l'automobile qui tournait,
Balthus ferma d'une forte poussée la porte de sa maison. Il éprouva une sorte de satisfaction à tenir un moment sa main appliquée sur le panneau de bois qui le séparait de la place et de l'homme. Il entra dans la cuisine. Oran courut à lui. « Eh bien, le père, sommes-nous condamnés ?» Il était aussi blanc de visage que le jour où, dans cette même pièce, il avait aperçu le corps inanimé de Marie Aupin. Oran s'écarta de lui doucement. Elle joignit les mains, elle répéta la question « Mais sommes-nous condamnés ?» Quand Balthus entendit pour la seconde fois la voix de celle qu'il aimait, il retrouva un peu de calme et il dit, croisant les bras, « Oh, j'ai pas eu peur, tout m'est égal à présent. C'est lui qui a eu peur quand je lui ai dit que je ne serai jamais contre Dieu. »
« Bravo, le père. Il a calé, il a pateliné, il a trouvé des formules rassurantes. Je le connais maintenant. Il est plus puissant que moi, mais il a une âme de pleutre, et moi pas. Que je suis contente de vous, le père, cela veut dire fier. » Elle souriait de jeunesse et de pitié, et aussi d'admiration. Mais lui, il s'assombrissait de nouveau. M'avoir parlé comme il a fait. Mais je n'ai jamais eu plus de colère contre un Allemand. Pourtant, c'est un Français. J'ai été fidèle au pays, Oran. Mais je suis bien là. Contre les coups que j'ai reçus, mon fils a été tué par les balles des Français. Hélas, oui. Ta mère a perdu la moitié de la raison, et puis la vie à cause de son enfant. Et donc à cause d'eux. Oui. Ils m'ont appelé Boche. Oui. Et ils menacent à présent ma religion, ils me traitent déjà en ennemi. Toute la Lorraine est inquiétée par eux. Il soupira et dit encore, Oran, parle-moi. Il penchait vers elle sa tête de vieil ouvrier des champs et de l'école, si las de lutter contre les deux puissances qui s'étaient succédées. L'Allemagne, la France. La jeune fille comprenait bien qu'il lui demandait conseil, qu'elle était appelée au rôle divin de la femme, enfant, sœur, épouse ou mère, qui devient aux heures troubles juge de la conscience de l'homme. Au fond de son âme, elle sentit une grande joie et la plénitude de sa raison, et une sorte d'assurance qu'elle n'avait point d'ordinaire à ce degré.
Le père, ce n'est pas à moi de vous conseiller. C'est à Nicolas, mon frère, dont vous parliez.
Que veux-tu dire?
Il n'a jamais voulu, dans le danger, faire du mal à un seul de ses soldats qui étaient en face de lui à Verdun. Bien sûr, il ne les aurait pas tous aimés s'il les avait connus. Mais au-dessus d'eux, il voyait la France, qui n'a pas fait seulement du bien à la Lorraine et qui est douée, cependant mieux qu'une nation, aucune pour comprendre la nôtre.
Bien, ma fille, cela est juste.
Et qui est souvent revenu de ses fautes, vous me l'avez appris dans vos leçons d'histoire. Ce qu'elle a fait, le refera. Tout sera réparé. Tandis que la voisine, elle ne se repent jamais.
Ah, pour ça, tu dis vrai.
S'il faut une merveille pour amener nos Français à Dieu et à sa gloire. Ah, le père chéri, vous me l'avez dit aussi pour la France. Dieu n'en est pas à son premier miracle.
L'homme regarda longtemps celle qui ne doutait pas et il répondit.
Mais qui t'a instruite de ces choses-là?
Elle se mit à rire. Mais vous-même, le père, je viens vous le rappeler.
Bah, comme cela, non, je n'ai jamais eu les mêmes mots que tu me dis. Tu parles comme ta mère, comme mon frère Gérard, mieux que moi.
Orano devint grave. Il ne lui resta qu'un petit sourire fier au coin des lèvres et elle dit
« Alors, c'est la race qui a parlé. »
Il quitta Oran pour entrer dans le cabinet de travail où il recevait les parents et il demeura longtemps immobile et songeant. Il était seul, la porte fermée devant la fenêtre. Une inquiétude nouvelle l'agitait.
qui se disait « Je suis un pauvre instituteur de village dont le lendemain n'est guère sûr. Il me manque beaucoup de choses pour être maire de Condé, et d'abord la fortune. Ne plus faire mon métier, ce serait dur aussi pour moi. J'espère que je ne serai pas forcé de l'abandonner. » J'ai eu raison de dire à l'envoyé tout à l'heure que si l'école reste ce qu'elle est, moi j'irai où l'on m'enverra. J'accepterai la disgrâce et la séparation d'avec Orane. Qui sait, mon départ ne tardera peut-être pas beaucoup. Je devrais expliquer aux gens de Condé, mes témoins, mes amis, ce que je pense de cette agitation qui peut grandir et nuire à la France. Un discours, non, je manquerai à mes habitudes, je sortirai de ma profession. » Il s'approcha de son bureau. « Je sais ce que je ferai. » Il prit une feuille de papier, écrivit quelques lignes, ratura, écrivit encore. Il n'avait pas fini ce travail lorsqu'Orane ouvrit la porte. « Avez-vous fait peu de bruit? Venez, le père, c'est l'heure du déjeuner. » L'Angélus a sonné en bas du bourg. « Qu'écriviez-vous donc ?»« Mon testament. »« Oh, tu verras. » Chapitre 13 et dernier. La dictée. Le lendemain, les enfants qui jouaient sur la cour de récréation de Condé-la-Croix, en attendant l'heure de la classe, remarquèrent que le maître avait l'air préoccupé. D'ordinaire, notre humeur, s'ils n'en sont pas victimes, leur importe peu. Ils n'eurent pas de mérite à observer que Jacques Balthus était moins gai que de coutume. Ce fils de la Barizet, ce petit lettre, ce Noiron, ce Chardin et les autres compagnons de l'équipe du jeu de balle au papier. Ils étaient avertis qu'il avait dû se passer ou qu'il allait se passer quelque chose de grave à l'école. Cet automobile devant la porte la veille, la destinée voyage ainsi. Un chef et dès lors probablement, le peuple a cette idée, une punition, une menace. Plusieurs maires avaient dit « On va nous l'enlever, notre bon monsieur Balthus, et qui viendra à sa place, un de l'intérieur, un qui peut-être sera mauvais. Mais petit, je le jure, il n'aura pas votre âme. » D'autres avaient demandé « Retiens bien ses paroles, s'il raconte quelque chose, et s'il raconte rien, tâche de voir mademoiselle Orane, la jolie, tu sais bien. » « Oui, maman, et tu lui diras, mademoiselle, est-ce que vous restez ?» Ils étaient donc 7 ou 8 parmi les élèves qui regardaient le maître au lieu de jouer ou qui se détournaient pour le regarder après avoir lancé la balle. L'instituteur se promenait, les mains dans ses poches, nu-tête comme à l'ordinaire, mais contre son habitude, il ne parlait à aucun de ses élèves. On ne l'entendait pas demander « Hé, Jérôme, tu l'as pris mal aux dents. Ton père a-t-il rentré tous ses foins, mon petit Thierry? Viens ici, mon pauvre Pierre. Est-ce que ta maman va mieux ?» Le maître avait l'air de ne porter intérêt qu'aux nuages d'orage qui montaient de l'est et de l'ouest, noirs d'un côté, fauves de l'autre, et ne laissant entre eux qu'un intervalle bleu étroit. La paix des deux côtés rongés. Un coup de sifflet, les élèves se sont mis sur deux rangs sans un mot. « Au pas, dit le maître, et entrez sans bruit. Gauche, droite. » La prière est citée, Jacques Balthus donne une leçon à repasser aux plus petits de la classe. « Pour les grands maintenant, cahier de dictée. 1, 2, 3. » Les pupitres s'ouvrirent ensemble, se fermèrent d'eux-mêmes et silencieusement. Au commandement de 3, les grands de l'école de Condé, porte-plume en main, tête levée, étaient prêts à écrire ce que le maître allait dicter. Jacques Balthus ne prit pas un livre. Il déplia une feuille de papier qu'il avait tirée de sa poche et posée sur le bois de la chaire. « Écrivez !» Les têtes se penchèrent, mais plusieurs enfants levaient les yeux quand la voix du maître marquait un point, et ils trouvaient bien pâle le visage que le soleil touchait au front. « Ne jugez pas un pays sur le premier homme de son peuple que vous rencontrez, ni d'après le premier journal que vous lisez, ni selon les commères. Attention, commères, c'est un mot difficile, qui remplace trop souvent le savoir par l'invention. Ne le condamnez pas parce qu'il a commis une erreur ou deux ou même plus. Étudiez son histoire. Voyez s'il a toujours eu les saints chez lui, car alors les pauvres y sont aimés. S'il a encore aujourd'hui des saints parmi ses hommes et ses femmes, car alors on peut tout espérer pour lui. S'il ne tient pas trop à l'argent, s'il est plus facile qu'un autre à tromper par de belles paroles, car alors il y a des chances pour qu'il soit chevalier. C'est ce que nous faisons en étudiant l'histoire de France, notre patrie retrouvée. Vous n'avez point à approuver les injustices qu'elle peut commettre, mais souvenez-vous, mes enfants, que notre esprit est celui de nos pères, c'est elle qui l'a embelli, que le courage des nôtres l'a servi en tout lieu, et qu'on ne connaît pas de peuple qui ait si vite quitté la barbarie et y soit moins souvent retombé. La France a besoin de sa Lorraine, comme nous avons besoin de la France. Vous l'aimerez mieux si vous la comparez. Servez-la, et elle sera meilleure encore. Quand elle se trompe de catéchisme, cette missionnaire, ce n'est jamais pour longtemps. Sa charité ne cesse point d'inventer ni d'agir. Croyez en la parole de ceux qui savent plus de choses que vous et moi. Mon frère l'abbé me disait, « Dieu veut qu'elle vive encore et qu'elle refleurisse, puisqu'il n'a préparé aucune nation pour la remplacer. » Il s'arrêta, toucha sa poitrine comme s'il avait eu mal, puis il dit encore, « Vous montrerez à vos parents la dictée de ce matin. » Vous leur porterez vos cahiers. Un enfant, un des grands, leva la main. Monsieur, que veux-tu? De qui elle est, monsieur, la dictée? Vous le dites toujours. Jacques Balthus ne répondit pas. Deux larmes coulèrent sur ses joues. Un élève, un des petits, dit au grand. Mais pourquoi tu demandes ça? Tu vois bien que c'est de lui. Fin.